Bonjour à tous et à toutes, merci d'être avec nous et de votre fidélité à notre rendez-vous du commentaire de la paracha de la semaine par le grand rabbin Avraham Harol Weil, grand rabbin de Strasbourg et du Bahreïn. Monsieur grand rabbin, bonjour.
Bonjour Jean.
Vous allez bien ?
Très très bien.
Vous êtes revenu parmi nous, ça y est ?
Oui. On ne dira pas où j'étais, hein, Jean. Hein.
Il ne faut
pas
avec nous.
Dévoiler trop de secrets à nos, bah, à nos auditeurs.
Sait, hein. Ah, bon. En même temps, tout le monde le sait. On rappelle donc cette semaine qui a été marquée par Tu Bishvat. On ne va pas y revenir, c'était la semaine dernière.
On peut en dire un petit mot. Hein. C'était une fête quand même très sympathique qui a été marquée de manière fort belle par la communauté avec une très très belle soirée. Très sympathique, très conviviale, très chaleureuse. Et on a fait le plein, Jean. Hein, 600 assiettes disposées par le traiteur qui ont été saisies en l'espace de quelques minutes. Donc c'est pour vous dire le succès de cette soirée.
Alors juste pour faire une parenthèse, on n'est pas là pour faire l'émission de la Comme en Live. Donc on va être très
succinct,
très sincère en tout cas. Il y a énormément
on est toujours sincère,
hein. De monde.
Est-ce que vous insinuez qu'on n'est pas sincère dans la Comme en Live, Jean ?
Non, je veux dire être encore plus sincère. Je suis en dehors du consistoire, donc je peux me permettre de dire qu'il y a énormément de monde à chaque activité qui sont organisées par le consistoire, que ce soit Tu Bishvat, que ce soit Simchat Torah, que ce soit n'importe quelle fête. Il y a toujours plein de monde.
En fait, c'est le but. Le but, c'est de faire venir un maximum de personnes, c'est de donner du plaisir aux gens, c'est de faire les choses, les organiser en tout cas le mieux possible, de manière à ce que ça corresponde à la fois aux attentes et que ce soit quelque chose de qualitatif, avec du contenu, hein, pas simplement matériellement. C'est sûr qu'on aime bien quand il y a un beau buffet de fruits et qu'il y a des bonnes choses à manger, mais aussi spirituellement, qu'on puisse avoir de bons livres Torah. Là, il y avait un quiz très sympathique à table, un espèce d'escape game qui a vraiment motivé aussi les enfants, et pas simplement les enfants, les adultes. Vraiment, l'ambiance était exceptionnelle, et du coup, eh bien, les gens viennent, et il faut remercier pour ça à toute l'équipe du consistoire, on ne les remerciera jamais assez. Je pense notamment vraiment à Stéphane qui est toujours à la baguette, au rabbin Gatzobag, et bien évidemment à notre secrétaire général Shmuel Ochnouna, parce qu'il a une grande, grande, grande part aussi dans tout ce qui est organisé. Et je peux vous assurer que les gens ne savent pas ce qu'il fait en coulisses, mais c'est un travail de titan.
Alors, on revient à la paracha.
Revenons à notre paracha.
Demain sera Shabbat Shira. Shabbat important.
C'est un Shabbat qu'on aime bien, Jean.
Voilà, ce sera la paracha de Beshalah, l'allumage des bougies 16h58 pour ce soir et à la fin du Shabbat, demain à partir de 18h09. Je rappelle à tout le monde que les horaires qu'on donne dans cette émission sont uniquement valables pour Strasbourg et sa région, parce qu'il y a des gens qui sont à Paris qui me disent « Tiens, t'as 17h là et c'est pas la bonne ». Le dimanche dernier, dans notre région, pas très loin d'ici, il y avait du beau monde, le grand rabbin de France, le président du consistoire, vous y étiez, le grand rabbin de Paris aussi était là.
Le grand rabbin du séminaire, le directeur
du séminaire des années de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé à Aubernais la semaine dernière ?
Eh bien, nous avons intronisé un nouveau rabbin, ce qui n'arrive pas tous les matins, en la personne du rabbin Yaakov Bar Shishat, que vous connaissez déjà, qui a eu l'occasion de s'exprimer à cette antenne à plusieurs reprises. Vous l'avez entendu même dans cette émission, il est passé sur la Comme en Live. Et donc le rabbin Yaakov Bar Shishat, qui donc est sur le poste d'Aubernais, qui est une communauté, comme vous le savez, qui ne fonctionne plus toutes les semaines, mais qui reste active à plusieurs reprises dans l'année. Et d'ailleurs, il a pas mal de projets, je le sais, pour continuer à faire vivre cette belle communauté d'Aubernais. Et donc, c'est à côté de la synagogue de l'Esplanade et des autres missions qui lui ont été attribuées, eh bien, là, une des missions qui sera la sienne, donc être le rabbin de cette belle communauté d'Aubernais, était donc normal qu'il y ait une cérémonie qui soit organisée. Ça a été fait avec le concours actif du président de la communauté d'Aubernais, en la personne de Denis Geisman. Et c'est vrai, vous avez raison de le dire, que non seulement cette intronisation s'est déroulée vraiment dans de très bonnes conditions et que la cérémonie était parfaitement organisée, mais surtout qu'il y a eu du beau monde, parce que vous avez rappelé la présence du grand rabbin de France, du grand rabbin Olivier Kaufmann, directeur de l'école rabbinique, de la quasi-totalité de l'équipe rabbinique, hein, quasiment tout le monde était là dans l'équipe rabbinique strasbourgeoise pour honorer le rabbin Yaakov Bar Chichat, mais surtout, et c'est en cela pour moi qu'il y a un grand Kiddush Hashem, une sanctification du nom divin, et ce qui montre à quel point les rapports que nous entretenons avec les pouvoirs publics, avec nos élus, sont des rapports excellents, et sont des rapports que nous souhaitons toujours, c'est beaucoup plus que cordiaux, c'est des rapports que nous entretenons tous les jours, et qui montrent à quel point la communauté est totalement, ça on le sait, mais en tout cas ce sont des moments comme ceci qui le réaffirment, à quel point notre communauté non seulement est complètement intégrée dans la communauté nationale, mais plus que ça, j'ai envie de dire, Jean, quel est finalement un modèle de réussite de cette intégration, de ce bon fonctionnement. Et donc, j'en veux pour preuve la présence, notamment, parce que c'est quand même la plus haute représentante de l'État, de la préfète. Hein, la préfète qui est venue en personne, Mme Josiane Chevalier, pour assister à cette intronisation. La députée, également Louise Morel, la députée de la circonscription, était présente. Il y avait d'autres élus qui étaient là, notamment des élus de la collectivité européenne d'Alsace et d'autres responsables religieux. Donc il y a beaucoup de personnalités en tout cas pour cette cérémonie, ce qui montre encore une fois la popularité dans le sens le plus noble du terme dont jouit la communauté juive du Bas-Rhin dans ce magnifique département, cette magnifique région.
Voilà. Mazel Tov à Yaakov Bar Chichat pour son intronisation.
Vous connaissez très bien, Jean, je sais.
Pardon ?
Que vous connaissez très bien, Jean.
Oui, oui.
Vous avez fait les colos.
Oui, plus que ça. On va... Ça, c'est pour notre histoire personnelle. On va parler de Beshalar, je disais, Shabbat spécial, Shabbat Shira, Beshalar. Dans la tfila de demain matin, chez Sfaradim en tout cas, il y a un petit passage un peu plus long à lire. C'est pas chez Ashkenaz, et pourquoi...
Il n'y a jamais rien chez Ashkenaz. Vous savez, chez Ashkenaz, nous, on est concentrés sur l'ordre de la fin de la tfila, et on ne chante pas plus que d'habitude. Non. Je plaisante. Il y a dans la tradition Ashkenaz de la vallée Rhénan, donc vraiment chez les Yekeux, comme on les appelle, une tradition d'ajouter... au contraire, on ajoute même beaucoup plus que les Sfaradim. Mmh. Contrairement, c'est quelque chose de pas forcément connu par un public qui n'est pas sensibilisé à cette tradition de la vallée Rhénane. Mais il y a énormément, énormément de textes qui sont intercalés lors des Shabbatot spéciaux dans la tradition Rhénane, et pas simplement au Shabbat Béchalar, ou pas simplement dans les grands Shabbatot, comme par exemple les quatre Shabbatot spéciaux qui précèdent Pessah, qui précèdent le mois de Nissan, mais tout au long de l'année. Ah bon. On a des intercalations, des fois, premier Shabbat de Iyar, deuxième Shabbat de Iyar, des choses qui ne se traduisent pas par un changement dans le rite séfarade, et qui voient les Ashkenazim intercaler des morceaux. Donc il en est de même, il y a des piyutim spéciaux que nous rajoutons demain, qui sont récités ou non en fonction des communautés qui ont l'habitude de maintenir les minagim ou pas. Mais on ne chante pas la Shira plus particulièrement.
Shabbat Shira, c'est parce qu'il y a le Hazir HaShem Moshe.
Alors bien évidemment, le Shabbat Shira, le Shabbat donc, du cantique, chant. Le Shabbat du chant, bien sûr, tient son nom de la place qu'occupe la Shira, le cantique qui a été entonné par les Bnei Israël au moment de la traversée de la Mer Rouge, qui est le passage central de cette paracha, qui est un passage où on fait monter normalement le rabbin ou la personne la plus importante du Kahal, et qui est écrite de manière très particulière. Alors, je me rattrape quand même par rapport à ce que je viens de dire, il y a quand même, chez les Ashkenazim aussi, une cantillation particulière de la Shira lorsque nous lirons la Torah, mais pas dans la tefila.
D'accord.
Alors que chez les Sfaradim, on le sait, dès qu'on lit le passage du Aziyachir dans la tefila, le matin, dans l'office de Shacharit, on s'en donne à cœur joie. Nos Baruch HaShem, nos Paitanim, nous font une belle démonstration de chant à ce moment-là.
Et en plus, il y a différentes airs très, très jolies.
Est-ce que vous pouvez nous faire un petit air de...
Non, non, pas aujourd'hui.
De Kenchla.
Non. On voulait quand même souhaiter, évidemment, à tous nos malades, au foie, chez les marques.
Vous avez raison.
Et également un Shabbat Shalom particulier à nos aînés et à nos personnes isolées. Je voulais quand même avoir une petite pensée pour les Hayadim, les 21 qui sont décédés la semaine dernière. On pense à eux chaque jour. Dernier mot pour souhaiter la bienvenue au rabbin Teboul, le Havedin de la ville de Lyon, qui était dans notre belle ville de Strasbourg, invité par le Kahal de Hejdat. Donc, on lui souhaite la bienvenue à Strasbourg. Monsieur le Grand Rabbin, on y va. Vous avez déjà parlé une partie du résumé. Donc, la deuxième partie.
J'ai parlé du milieu. On va d'abord commencer par parler du début de la paracha. La paracha de Béchalar, c'est la paracha de la liberté. Puisque les trois premières sidrot de Shemot nous ont plutôt proposé d'abord ce qui a été vraiment l'exil et la manière dont l'esclavage a progressivement mis les Béné Israël dans une situation impossible. Et puis nous avons assisté par la suite au début du processus de libération avec la mission de Moshe. Et dans Parashat Béchalar, ça y est, on sort d'Égypte. C'est vraiment la sortie. On a vu les prémices de cette sortie à la fin de la Parashat Bo. Dans Parashat Béchalar, c'est comme cela que la Parashat commence. On y va, on sort d'Égypte. Et malheureusement, le répit est de très courte durée, Jean, comme vous le savez, puisqu'à peine sorti, les Égyptiens regrettent leur choix et ils vont donc envoyer 600 chars à la poursuite des Bnei Israël afin de, tout simplement de les ramener en Égypte. Les Bnei Israël se retrouvent coincés entre les Égyptiens d'un côté, derrière eux, le désert à droite et à gauche, hein, très hostile, et puis en face d'eux, la mer Rouge, la mer des joncs, qui leur barre la route, et il y a un peu de panique à ce moment-là, même un sentiment de peur. Moshe ne sait pas trop quoi faire et il élève sa voix vers Dieu, comme d'habitude Moshe avec sa grande confiance. Il implore à Kadosh Baruch Hu qui va lui dire, écoute, c'est pas le moment de prier, maintenant avancez, traversez de la mer Rouge. Et c'est le passage central de la paracha, les Bnei Israël, la mer Rouge, miracle, la mer, donc des joncs qui s'ouvrent en deux. Les Bnei Israël qui traversent à pied sec, suivis des Égyptiens qui s'engagent. Le miracle se produit, Jean, la mer se referme sur les soldats égyptiens. Et cette fois-ci, c'en est la fin du royaume égyptien devant l'impuissance de Pharaon, hein, qui va reconnaître lui-même la toute-puissance, à contrario d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, donc son impuissance qui est mise face à la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu, et qui est. Et on va dire exprimé par ce fameux pasouk, Michamocha, Baelim Hashem, qui est puissant, qui est comme toi, hein, parmi les puissants, Akadosh Baruch Hu, Hashem. Et puis, deuxième partie de notre paracha cette fois-ci, on peut imaginer que tout va bien se passer maintenant, le danger égyptien est totalement éliminé, mais non. Voilà d'autres ennuis qui commencent et d'autres épreuves pour les Bnei Israël, notamment cette première épreuve à Mara où l'eau est amère et où très rapidement le peuple va commencer une série très très à la fois surprenante et à la fois qui nous met un petit peu mal à l'aise, une série de complaintes suite à des difficultés que le peuple n'arrive pas à surmonter. Et donc nous verrons comment est-ce qu'à chaque fois, systématiquement, par le truchement de Moshe, que je retrouve à envoyer une solution, Amara pour adoucir les eaux, Laman par la suite, lorsqu'on va se plaindre de ne pas avoir à manger, que Dieu va faire tomber cette nourriture miraculeuse, qui va tomber durant tout le séjour des Bnei Israël dans le désert.
Et on termine par la guerre avec Amalek.
Et on termine par la guerre avec Amalek. Donc un sujet, a priori, qui n'a rien à voir avec notre paracha, mais qui a toute sa place, puisque c'est justement dans un endroit tel que le désert, qui est un endroit sans véritablement cadre, véritablement cadre. Qu'il y ait de choses bien définies, justement c'est le propre d'Amalek, que va se dérouler cette guerre, qui aurait été les prémices d'une guerre qui dure jusqu'à nos jours, entre Amalek et le peuple d'Israël.
Alors avant de quitter la terre d'Égypte, Moshe va chercher les ossements de Yosef. Je me dis, est-ce qu'il y avait que ça à faire à ce moment-là?
Alors visiblement, il n'y avait pas que ça à faire, Jean. La preuve, c'est que Moshe est le seul à s'intéresser aux ossements de Yosef et que les Israélites sont occupés à d'autres choses. Rappelez-vous qu'ils ont dû récupérer toutes les richesses là, qui leur avaient été promises. Et donc, on voit que lui, Moshe, s'occupe de choses bien plus nobles. Et c'est ce qui va d'ailleurs être souligné, hein, notamment par le Midrash. On montre à quel point Moshe Rabbeinu a une affection toute particulière pour les mitzvot. Il aurait pu aussi aller chercher tous ces trésors, il aurait pu aussi récupérer tout ce qui avait appartenu aux Égyptiens, mais non, Moshe préfère se concentrer sur la mission qui est la sienne, sur la promesse qui a été faite, et non pas par Moshe. Rappelez-vous, c'est une promesse qui est faite alors que Moshe n'est pas encore né. Yosef a demandé absolument à ce qu'en temps voulu, au moment où les Bnei Israël quitteraient l'Égypte, qu'on puisse emporter les ossements pour qu'ils soit à son tour enterré aussi en Eretz Israël, comme l'a été son propre père et comme lui-même l'avait réalisé pour son propre père et s'y était engagé, rappelez-vous, dans la paracha de Vayechi, pour son propre père. Difficulté d'ailleurs à trouver ses ossements. Il va falloir l'intervention de Serach, Serach Batacher, qui elle a été présente, très âgée. Rappelez-vous que c'était elle qui avait annoncé à Yaakov que Yosef était encore vivant. Ouais. Avec son instrument de musique, et donc Serach, elle sait exactement où se trouvent les ossements. Et c'est justement par l'intervention de Moshe que
une intervention d'Hachem, c'est-à-dire que.
Tout à fait, pour faire sortir le Aaron de l'eau qui avait été caché, enfoui dans la mer des joncs, et donc par le srout, justement, de Moshe, et de sa fidélité absolue, eh bien, ce Aaron va finalement sortir de lui-même des eaux pour que Moshe puisse le récupérer et que, comme convenu et comme promis, ses ossements puissent être transportés dans le désert par les Bnei Israël.
Alors, je vais parler des nuées, mais on n'aura pas le temps, donc on va avancer. Et justement, on va revenir à ce que vous avez dit pendant le résumé. Les Bnei Israël sont coincés, Moshe prie, et Dieu lui dit de prier et avance. C'est bizarre comme réponse.
Alors, avant même que Moshe prie, on a là aussi un midrash très très intéressant qui nous dit qu'il y a eu, et je trouve pour moi un des moments les plus passionnants, on peut s'arrêter sur ce moment, c'est pas grave si on n'a pas le temps de voir toute la paracha, parce que c'est un passage qui est passionnant. Il est, pour moi, révélateur à la fois de tous les dysfonctionnements qui pouvaient exister à ce moment-là dans le clan Israël, mais surtout des erreurs à ne pas justement commettre dans le futur. Donc c'est très important pour moi, c'est peut-être un des passages les plus essentiels de la Torah. On voit un peuple d'Israël qui donc, est fraîchement sorti d'Égypte, qui a pris de bonnes résolutions, hein, on le sait, il était à la limite de sombrer dans la 50e porte d'impureté, ce qui aurait été un point de non-retour. Il y a l'intervention de Moshe et finalement tout un processus de purification. Il va y avoir de nouveau une Mila faite dans de bonnes conditions, le sacrifice pascal, le sang qui est mis sur le... Donc l'affirmation extrêmement forte, extrêmement puissante de son identité, le détachement préalable déjà de toutes les valeurs égyptiennes. Et donc on s'attend à voir un peuple maintenant très soudé, très uni, qui est portés par ce projet, ils savent qu'ils vont sortir dans le désert, ils savent qu'il y a quelque chose qui les attend, même s'ils ne savent peut-être pas encore ce qu'est exactement le don de la Torah, mais en tout cas ils savent qu'il y a un projet, que c'était pas simplement sortir pour sortir, mais que c'est sortir pour se soumettre à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et alors qu'on est à peine sorti depuis quelques jours, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à la première difficulté, alors je ne vous dis pas que ce n'était pas une grosse difficulté, forcément, la peur est humaine, on a tous un instinct de survie, et on se sent coincé entre les Égyptiens armés, la mer en face de nous qui nous bloque le passage, et donc on peut penser qu'il est légitime d'avoir peur à ce moment-là. Ce qui est embêtant, Jean, c'est qu'il y a, nous dit le Midrash, il y a eu 4 catégories à ce moment-là et 4 réactions différentes. Donc on voit un peuple dans lequel il n'y a absolument pas d'unité, ou dans lequel cette unité en réalité n'était qu'une unité de façade. Et ça c'est terrible. On sait que finalement notre salut, nous le gagnerons, nous le devrons qu'à notre unité, qu'à notre capacité non seulement à nous réunir, mais à militer pour une cause commune. Or là, on ne sait pas quoi faire. Certains disent qu'il faut prier, d'autres disent bah non, il faut se jeter dans la mer, de toute façon on n'est pas sorti maintenant pour retourner en Égypte, donc autant mourir avec les honneurs et puis suicidons-nous en nous jetant dans la mer. D'autres se disent bah non, bah, finalement on n'était pas si mal en Égypte, donc plutôt que de se faire massacrer, revenons en Égypte, et les plus téméraires qui vont dire bah non, allons faire la guerre, voilà, quitte à mourir, au moins qu'on meure les armes à la main. Donc vous voyez des réactions complètement différentes, et puis finalement ce n'est aucune de ces réactions qui va être retenue, même la plus noble d'entre elles qui était celle de prier, qui a priori est une démarche très positive, on va dire bah non, finalement ça vaut pas le coup de prier. On va dire, Hachem, c'est pas le moment de prier, il y a un temps pour tout.
Ça veut dire, qu'il faut pas prier?
Non, surtout pas. Ça veut dire qu'il y a des moments, finalement, dans la vie où il faut savoir aussi avancer. Voilà, l'Ishtadout, c'est aussi de savoir faire le premier pas. Bien sûr que c'est important de prier. Une fois qu'on a montré qu'on a confiance en Akadosh Baruch Hu et qu'on lui a demandé de nous aider, eh bien, il faut savoir aussi avancer. On peut pas se contenter de rester les bras fermés et puis de regarder vers le ciel. L'homme doit être capable d'avoir une démarche, et cette démarche, maintenant, c'est celle d'avancer. C'est celle d'être capable de faire le premier pas.
Même temps, il y a Akadosh Baruch Hu qui est avec nous. Je veux dire, à qui d'autre demander un coup de main, quoi.
C'est ce qui se passe finalement. Mais le fait d'avancer, oui, c'est aussi de montrer qu'on doit notre salut.
Avance, ne prie pas, quoi.
Voilà. Attention, avancer ici, il ne s'agit pas d'avancer pour sauter dans la mer de désespoir. Oui, oui. C'est avancer avec la confiance en Akadosh Baruch Hu, cette confiance qu'il ne peut pas nous abandonner, qu'il nous a surtout pas, il nous a sûrement pas fait sortir d'Égypte maintenant pour nous y faire retourner 6 jours après. Donc forcément, s'il y a une difficulté, c'est qu'on n'est pas capable de la comprendre, mais que cette difficulté va se résorber. Et donc, on doit absolument être capable d'aller de l'avant. Cette démarche, elle est incroyable. Le fait de dire non, je te demande pas de faire un pas à gauche ou un pas à droite. Avance, marche. Voilà, c'est ça. Des fois, il faut avoir cette certaine forme de tmimout, d'une candeur, mais qui est pas de la naïveté ici, qui est pas. Non, c'est une confiance et une capacité finalement à dire. Voilà, cette confiance là, elle se traduit pas uniquement dans des mots. C'est pas de la théorie, c'est aussi de la pratique. J'avance et Akadosh Baruch Hu nécessairement, eh bien, va faire ce qu'il faut de son côté pour me faciliter les choses. On le sait, Narshon ben Aminadav, de la tribu Yehuda, qui a été le premier à fendre la mer et à plonger dans l'eau, pas de désespoir aussi, mais justement par confiance, eh bien, il a montré le chemin. Il a eu beaucoup de srouillot par la suite. Il a été le premier à apporter un korban au moment d'une l'inauguration du Mishkan. Donc on voit à quel point ce geste a été un geste décisif. C'est le geste que l'on attendait et il a servi vraiment d'exemple et de modèle pour tout le clan Israël. À l'inverse, Jean, je prends encore vraiment quelques secondes, on voit les Égyptiens, et c'est ça ce qui a effrayé les Bnei Israël, d'après certains commentateurs, on voit Mitzrayim Nosa Achareim. C'est très classique ce que je dis, mais c'est important de le rappeler même Traviser chaque année. Ve'ine Mitzrayim Nosa Achareim, et voici l'Égypte qui voyage derrière eux. Ce ne sont pas les Égyptiens, ce ne sont pas les chars, mais c'est l'Égypte. C'est l'Égypte tout entière qui est en train de voyager derrière les Bnei Israël. Ça vous rappelle rien, ça, Jean ? Eh bien, si, ça doit vous rappeler quelque chose. Ça doit vous rappeler ce moment d'unité qui va être celui du clan Israël lorsqu'ils vont se retrouver au pied de la montagne du Sinaï. L'Égypte, à ce moment-là, fait preuve d'une unité incroyable. Une unité pour le mal, une unité pour détruire son ennemi, pour détruire le clan Israël, mais une unité malgré tout. Et c'est de cette unité que le peuple va avoir peur à ce moment-là. Le peuple n'a pas à avoir nécessairement peur des Égyptiens. D'ailleurs, d'après certains, les Bnei Israël étaient sortis armés. Hamouchim, ils étaient mezouyanim. Donc, imaginez que 600 000 hommes, si quand vous rajoutez les femmes, les enfants, vous avez 2-3 millions d'individus surarmés devant 600 chars, ils n'ont pas de quoi rougir. Ils sont aussi capables de se défendre. Mais lorsque vous voyez que vous êtes désunis et qu'en face de vous, vous avez un peuple uni, un peuple qui est motivé, motivé dans le mal, mais qui est motivé dans cette unité, dans cette capacité finalement à faire corps ensemble, là, il y a un danger. Et là, vous devez véritablement vous poser des questions quant à votre survie.
C'est-à-dire quand nous, on est unis, on est aussi invincible.
On est aussi fort. Voilà. On n'a pas besoin d'armes. L'unité est l'arme la plus puissante. Vous voyez bien que même un peuple de plusieurs centaines de milliers d'individus, armés jusqu'aux dents, ne pouvait pas faire le poids devant des Égyptiens ultra motivés. C'est pas bien sûr qu'on peut avoir une première lecture en se disant que les Égyptiens avaient des armes plus sophistiquées, qu'ils étaient plus entraînés. Mais on sera forcément confronté à ça à un moment donné, à cette difficulté du nombre. Et pour résoudre cette difficulté du nombre, on doit accepter qu'il y a une deuxième lecture et que dans cette deuxième lecture, ce qui a véritablement effrayé les Bnei Israël, ce n'est pas d'être en infériorité numérique ou d'être moins armés, mais c'est surtout le fait d'être face à un peuple qui était uni, alors que soi-même, eh bien, on n'est absolument pas capable de faire preuve de cette unité.
Alors, on va passer un peu et on va s'arrêter sur un deuxième point de cette paracha. Les Hébreux passent là à la mer des Jourdains. Ils arrivent et ils chantent.
Ils chantent.
Pourquoi ils dansent pas?
Il va y avoir des danses aussi, Jean. Mais ce sont les femmes qui vont danser. C'est quelque chose qu'elles ont de plus. Elles vont même utiliser des instruments de musique. Il y a sans doute une dimension encore plus profonde dans la Shira qui a été justement entonnée par les femmes, puisqu'elles vont rajouter quelque chose encore au chant qui est déjà très très puissant ensemble. Oui. Et effectivement, il n'y a pas eu de mecholot, comme on dit, dans le chant qui a été entonné par les Bnei Israël à ce moment-là. La Shira est déjà extrêmement puissante en soi, finalement. L'expression de ce chant qui est l'expression de ce que, tout simplement, de l'âme, de la Neshama qui est en train de s'exprimer, eh bien, elle se suffit déjà en soi. On n'a pas besoin de danse, on n'a pas besoin d'une expression supplémentaire. La Shira est déjà en soi, j'ai envie de dire presque la quintessence de ce que l'âme est en train de vivre à ce moment-là. Et on pourrait presque même dire, si j'osais le faire, finalement tout artifice supplémentaire pourrait être de nature à impacter un petit peu la pureté de cette Shira. Donc la Shira, elle ne doit même pas être accompagnée en tant que telle par autre chose, parce qu'elle exprime quelque chose de déjà tellement puissant et tellement profond que la grignotée, c'est comme certains aliments, des fois, ils sont déjà tellement bons en soi que lorsque vous avez tendance à rajouter trop de condiments, trop d'artifices, malheureusement, vous perdez de toute la saveur originale de l'aliment et c'est parfois contre-productif.
Donc on s'arrête sur un dernier point, c'est cette fameuse guerre sur Amalek. Qui, malheureusement, va nous poursuivre longtemps. En fait, j'ai envie de vous poser la question, c'est qui Amalek ? Parce que bon, on n'était pas là quand ça s'est passé.
Alors Amalek, c'est celui qui a une haine d'Israël, qui est une haine irrationnelle. Donc ça peut vous faire penser à beaucoup de personnes, Jean, une haine totalement irrationnelle. Il vient combattre, il est prêt. C'est quelqu'un qui a une haine tellement irrationnelle contre le peuple d'Israël, Amalek, qu'il est prêt à mener le combat, même s'il sait qu'il va y laisser des plumes. Qui serait prêt à partir au combat sans aucun objectif militaire, sans aucun objectif politique, sans aucun objectif financier, et surtout en sachant qu'il va nécessairement y laisser des plumes, nécessairement se blesser, perdre des hommes. Mais voilà ce qu'est Amalek. Amalek n'est motivé que par la volonté de détruire, d'effacer le nom du clan d'Israël de l'histoire, et donc indirectement, finalement, d'effacer, c'est ça sans doute son objectif, la présence de Dieu dans ce monde. Voilà le rôle d'Amalek. Des Amalek, il y en a dans toutes les générations. On en a connu encore récemment, on en a encore dans notre génération. Et cette bataille, c'est bien plus qu'une bataille physique. C'est en réalité, comme on le sait, une bataille spirituelle. Mmh. On le voit, on l'a vu bien sûr avec Moshe. Lorsque Moshe lève les mains vers le ciel, c'est la capacité pour les Bnei Israël à regarder vers le haut. Bien sûr, vous l'avez bien compris, lorsque Moshe lève les mains vers le ciel, ça veut dire regarder, regarder vers le ciel. Si vous avez confiance, si vous n'avez confiance qu'en votre puissance physique, que dans vos mains, que dans vos armes, eh bien, bien évidemment, vous contribuez finalement à aller dans le même sens qu'Amalek, parce que c'est ce que veut faire. Amalek veut effacer la présence d'Akadosh Baruch Hu de ce monde. Donc un monde finalement qui ne serait, qui ne fonctionnerait que par la puissance des hommes, par leur capacité à inventer des choses, par leur puissance physique, par la puissance de leurs armes. Mais ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Et donc c'est ça ce que vient dire Moshe Rabbeinu lorsqu'il lève les mains. Donc il n'y a rien de magique finalement à la fin de cette paracha, lorsqu'on voit que lorsque Moshe levait les mains, le peuple gagnait. Il gagnait tout simplement parce qu'il se recentrait sur l'objectif de cette guerre, c'est-à-dire une guerre où l'objectif d'Amalek est d'effacer le nom de Dieu, et l'objectif du clan d'Israël, lui, au contraire, est de témoigner de la présence de Dieu dans ce monde.
Dernier mot, on va terminer par là pour la paracha la semaine prochaine, la paracha extrêmement importante, puisque Yitro et les 10 commandements qu'on lira pendant cette paracha, finalement on peut dire que c'est quand même bizarre que ce soit dans la paracha de Yitro, qui est, on le sait, le beau-père de Moshe, où il y a les 10 commandements pour la première fois dans la Torah. C'est... Non ?
Qu'est-ce qui vous semble bizarre, Jean ?
Ben, on aurait pu prendre une paracha spéciale, pas le mettre dans Yitro.
Eh bien, on en parlera sans doute la semaine prochaine.
Non, mais, déjà un mot.
Alors déjà un mot, non, j'ai dit on en parlera plus longuement, mais ça vous prouve déjà, je vous mets un avant-goût, ça vous prouve l'importance qui était celle d'Yitro dans l'histoire du clan Israël. Il a été un tel modèle d'abnégation, il a été un tel modèle de cette capacité, cette propension finalement à avoir une démarche intellectuelle honnête et une démarche spirituelle très profonde qu'on lui a fait ce cadeau de placer la paracha des 10 commandements dans la paracha qui porte son propre nom. Voilà, ça vous montre véritablement l'importance de Yitro et le rôle déterminant qui va être le sien par la suite.
Voilà, merci M. Grandma, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et merci à Thomas pour la réalisation technique. À vous tous et à vous toutes, Shabbat Shalom. Rendez-vous aussi, Dieu veut, la semaine prochaine. Shabbos Koydesh, Shabbos.